RCF.
RCF, il est 19h. Le journal, Grégoire Gindre.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, un chiffre, 12 000, c'est le nombre de catéchumènes, de nouveaux baptisés adultes à Pâques, un record. Témoignage dès le début de ce journal. Gabriel Attal aux 20h de TF1 ce soir, le Premier ministre doit justifier le déficit public français de 2023. Comment faire des économies? Une hausse des impôts est-elle à prévoir? Précision dans cette édition. Et dans ce 19h, notre long format du soir, direction la Guyane, au sein de pensionnats pour mineurs fondés par l'Église catholique. Des internats dans la tourmente, on l'entendra. La montée vers Pâques intrigue et surtout attire. Les demandes de baptême d'adolescents et d'adultes explosent sur notre territoire. C'est le constat de l'enquête réalisée par la Conférence des évêques de France. Après une légère baisse pendant la pandémie du nombre de catéchumènes, c'est le nom donné aux personnes se préparant au baptême, le nombre de baptisés est désormais en hausse constante depuis 2021. Cette année, ce sont plus de 12 000 personnes qui vont recevoir le sacrement du baptême, mais aussi la confirmation et l'Eucharistie à Pâques. Et Laurette Duranel, c'est 28% de plus que l'an dernier.
Oui, Grégoire, c'est un chiffre record jamais atteint depuis la création de cette enquête selon la Conférence des évêques de France. Dans le détail, 12 135 personnes vont entrer dans la communauté des catholiques, dont plus de 7 000 adultes et 5 000 adolescents. Sacha, trentenaire lilloise, est l'une de ces catéchumènes. Elle explique à nos confrères de RCF Hauts-de-France les raisons qui l'ont conduite vers le baptême.
Depuis que je suis toute petite, je demande à mes parents de me faire baptiser. Et en fait, voilà, ils préféraient que ce soit moi qui puisse prendre la décision plus tard et faire mes propres choix. C'est très bien aussi. Pourquoi moi j'ai décidé parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai eu une difficulté, à chaque fois que j'ai eu un problème, même depuis que je suis toute petite, ben, croire en Dieu, c'est des choses qui m'ont donné de la force, en fait. Et à chaque fois, j'ai trouvé du réconfort et il m'a jamais abandonnée. Donc, c'est un peu une des seules personnes qui m'a jamais abandonnée. Donc, je l'abandonne pas non plus.
Si tout remonte à l'enfance pour Sacha, 32% des équipes de catéchuménat indiquent que c'est au travers du patrimoine religieux que beaucoup découvrent la foi chrétienne.
Et merci Laurette. Et autre enseignement de cette enquête de la CEF, de plus en plus de catéchumènes se déclarent issus de familles sans religion. Au chapitre économie, c'est presque un baptême du feu pour Gabriel Attal. Le Premier ministre va devoir justifier le déficit public 2023 aux 20h de TF1 ce soir. 5,5% du PIB, soit un dépassement de 15,8 milliards d'euros l'année dernière. Le chef du gouvernement devra notamment apporter des précisions sur les coupes budgétaires envisagées pour faire des économies. Et bien que Bruno Le Maire ait assuré être, je cite, « totalement opposé à toute augmentation d'impôts sur nos compatriotes », cette hypothèse paraît désormais inévitable pour Henri Terdignac, économiste et cofondateur des Économistes Atterrés.
Nous avons un déficit de 5,5%, le gouvernement a un objectif de 3%, donc il faut trouver à peu près 80 milliards, donc c'est très difficile de le trouver en baissant les dépenses. Par contre, on peut imaginer qu'une partie de ce déficit soit obtenue en augmentant les impôts, soit de manière très brutale en augmentant la TVA, ce qui provoquerait une reprise de l'inflation, soit de manière plus subtile en essayant de taxer les entreprises qui font beaucoup de profits et qui distribuent beaucoup de dividendes, en essayant de taxer les ménages les plus riches. Mais évidemment, ça suppose que le gouvernement renonce à cette stratégie qui jusqu'à présent était baisser les impôts pour attirer les plus riches et les grandes entreprises.
Et le Sénat a annoncé cet après-midi le lancement d'une mission parlementaire. Objectif, faire toute la lumière sur la dégradation des finances publiques depuis 2023. De son côté, l'agence de notation Moody's a jugé maintenant improbable que la France tienne son objectif de réduire le déficit public à 2,7% d'ici 2027. À l'étranger, le chaos toujours en Haïti. Plus de 170 Français, quelques 70 ressortissants européens ont été évacués à bord d'hélicoptères de l'armée française. Le pays est toujours en proie aux violences depuis plusieurs semaines maintenant. C'est l'insécurité alimentaire qui guette désormais Haïti, menacée par la famine. La faim d'un côté, le gaspillage alimentaire de l'autre, l'équivalent d'1 milliard de repas sont jetés inutilement dans le monde chaque jour. L'ONU, à l'origine de l'estimation, dénonce la tragédie mondiale du gaspillage alimentaire. Le montant réel pourrait être bien plus élevé selon les Nations Unies. Du sport et du football pour terminer. Chez les femmes ce soir, les Lyonnaises accueillent le Benfica en quart de finale de Ligue des Champions. Vainqueur à l'aller 2-1, les Fenottes espèrent valider leur billet pour les demi-finales. Dans notre long format du jour, direction la Guyane. Que s'est-il passé durant des années dans les homes guyanais? 8 pensionnats fondés par l'Église catholique et soutenus par l'État depuis la fin des années 40. Environ 2000 enfants autochtones y ont été placés en internat. Bonsoir Jean-Baptiste Labeur.
Bonsoir Grégoire, bonsoir à tous.
Aujourd'hui, des universitaires, des élus et plusieurs associations guyanaises demandent la création d'une commission vérité et réconciliation en raison d'accusations de violence à l'intérieur de ces pensionnats.
Oui, des pensionnats qui ont vu le jour dans les années 30 en Guyane à l'initiative de l'Église. À l'époque, le territoire est encore considéré comme une colonie. La loi de 1905 ne s'appliquant pas sur place, après la départementalisation, en 1949, l'État a confié aux congrégations la mission d'éduquer et d'assimiler ces enfants amérindiens, qualifiés par le droit de l'époque de population primitive. Tout cela a été contractualisé en 1949 par un arrêté préfectoral. L'État impose alors la contrainte du placement obligatoire de ces enfants. La plus forte activité de ces homes s'étend de 1950 au début des années 80 et le dernier d'entre eux n'a fermé que l'an passé.
Et cette politique française est longtemps restée taboue en Guyane.
Oui, Hélène Ferrarini est l'autrice d'un livre « Allons enfants de la Guyane, éduquer, évangéliser et coloniser les Amérindiens dans la République ». Elle est l'une des premières à avoir creusé cette question et a recueilli de nombreux témoignages. Elle évoque le déracinement vécu par ces enfants placés.
Il faut essayer d'imaginer le grand écart dans lequel les enfants des hommes ont été plongés, qui sont passés d'un mode de vie autochtone, dans leur village, entourés par leur famille, qui sont retrouvés, donc ces enfants, catapultés du jour au lendemain dans un internat religieux avec une vie très très encadrée. Donc tout ça, ça a été vécu avec une grande violence par beaucoup de ces enfants. Moi, j'aime bien dire, il faudrait imaginer aujourd'hui un enfant qui grandirait en Europe avec le mode de vie qu'on connaît, qui serait du jour au lendemain envoyé dans un village amérindien de l'intérieur de la forêt guyanaise.
Et parmi les contraintes décrites dans ces homes, l'interdiction des langues locales.
La stratégie de l'État étant d'assimiler ses enfants en interdisant tous les usages et les règles de vie autochtones, a commencé effectivement par la pratique de leur langue maternelle. Hélène Ferrarini.
Pour la République française, pour la préfecture de Guyane, un des objectifs qui sont assignés à ces internats, c'est de franciser ces populations via les enfants. Et donc l'imposition de la langue française, elle est évidente, et son corollaire, l'interdiction de parler les langues maternelles, ça c'est quelque chose que racontent de nombreux anciens pensionnaires, qu'il leur était interdit de parler leur langue maternelle autochtone, avec différents modes de sanctions. Mais ce qui revient beaucoup dans les entretiens que j'ai pu faire, c'est vraiment l'idée que c'était interdit, clair, que s'ils le faisaient, c'était en cachette. Donc je pense qu'il y avait quand même un climat de peur.
D'anciens pensionnaires s'estiment donc victimes de l'effacement de leur identité culturelle, un traumatisme qui perdure encore aujourd'hui. Depuis quelques années, la parole a commencé à se libérer. Jean-Pierre Macias, professeur de droit public, il dirige l'Institut francophone pour la justice et la démocratie. Il a lui aussi mené une enquête sur place dont les conclusions ont été dévoilées en février dernier à l'Assemblée nationale.
On a fait notre propre enquête et on s'est rendu compte qu'il y a indubitablement un certain nombre de violences qui ont été commises à l'intérieur de ces hommes, des violences, on va dire, politiques, dans la mesure où les Indiens ont été amenés obligatoirement à y les intégrer, des violences culturelles très fortes en matière de répression de l'identité culturelle, de la langue, des religions, des pratiques culturelles des Amérindiens, et puis aussi des violences matérielles, soit des violences physiques, des méthodes d'éducation parfois un peu difficiles, un peu dures, et puis on a des prémices de témoignages de violences violences sexuelles. Et donc, cet ensemble de données a fait qu'on a considéré qu'il était essentiel de proposer la commission vérité. Moi, je n'ai jamais conçu mon enquête comme étant une enquête d'accusation, mais au fond, comme un signal d'alarme, en disant il y a des risques. Et ces risques doivent être aujourd'hui être enquêtés, parce qu'on ne peut pas laisser les choses dans cette espèce d'incertitude.
Cette demande d'une commission vérité-réconciliation est soutenue par des personnalités.
Comme Jean-Marc Sauvé, l'ancien président de la SIAZ, et des élus nationaux et locaux, dont fait partie le député de Guyane, Jean-Victor Castor.
À partir du moment où tout le monde joue le jeu, on peut rentrer dans des process, pas de réparation simplement, pas de guérison simplement, mais des process qui sont importants pour l'histoire du pays lui-même. Ça permet de partir sur d'autres bases, en fait, de repartir sur d'autres bases. Il ne s'agit pas de faire le deuil de problématiques comme ça, mais de poser les choses de façon très factuelle, et de permettre en tous les cas à la parole de se libérer.
Les partisans d'une telle commission estiment que l'outil a fait ses preuves dans d'autres pays où des populations autochtones ont été victimes d'assimilation forcée, comme en Australie, au Canada ou en Norvège.
Et Jean-Baptiste, quelle est la position de l'Église sur ce sujet ?
Eh bien, nous avons joint Monseigneur Alain Rancet, l'évêque de Cayenne. Pour lui, il est important de tenir compte du contexte historique de l'époque.
On ne peut rien reprocher à l'institution ecclésiale en tant que telle, c'est-à-dire aux religieuses de Saint-Paul de Chartres qui ont pris en charge ces internats, dans un contexte particulier, puisque la Guyane est un pays, en fait une région française qui est plus grande que le Portugal, les moyens de communication étaient extrêmement peu développés, et donc il était absolument impossible de scolariser les enfants sans qu'il y ait des internats relais. Donc le gouvernement a fait appel à ces religieuses qui ont, d'après les témoignages, bien rempli leur rôle. Alors, on peut reprocher des problèmes, alors, il y a eu, M. Macias l'a relevé, donc il y a eu des abus pour certains enfants, il y a eu des cas, mais ils ne sont pas dus évidemment aux religieuses, ils sont dus aux des surveillants amérindiens, d'après le document que j'ai pu lire. Donc par conséquent, les sœurs ne sont pas en cause, on n'est pas dans la situation canadienne, absolument pas.
Le scandale des pensionnats autochtones canadiens pour lesquels, on s'en souvient, le pape François avait demandé pardon. À ce stade, Monseigneur Rancet ne voit pas la nécessité d'une commission vérité et réconciliation pour les hommes de Guyane.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Labeur pour le dossier de la rédaction. C'est la fin de cette édition, l'information revient demain matin, 6h30 sur RCF. Très bonne soirée.